pour les profs, ça a été une année aussi exceptionnelle. Natacha Blanchet est en ligne. Bonjour, madame.
Bonjour, M. Saint-Pierre.
Quelle année. Et comme je le mentionnais, pour tout le monde, on a vécu tout plein de premières. Quel a été, diriez-vous, Mme Blanchet, l'impact principal des effets COVID sur les professeurs et sur les élèves?
Ben écoutez, l'impact, ça a été tout le chamboulement de l'enseignement à distance, hein, tout ce qui a été... on n'avait jamais vécu dans l'enseignement au Québec... on n'avait jamais fait de virage numérique, si on veut.
Ouais.
Et là, la pandémie a obligé un virage drastique vers le numérique. Hein. Ça a été ça, le gros de cette pandémie-là. On n'avait pas les outils technologiques, on n'avait pas les connaissances pour le faire. Donc, depuis un an, vous avez raison, la vie a été chamboulée pour tout le monde. Puis pour l'éducation, ben ça a été un virage très drastique vers toutes les technologies pour arriver à faire l'enseignement, si on veut.
Oui. Vous dites « nous n'étions pas prêts à faire ça ». Est-ce que en disant « nous n'étions pas prêts à faire ça », il y a un blâme que vous adressez au ministère de l'Éducation ou est-ce que vous concevez que, de toute manière, pareille situation ne pouvait pas être prévue, mettons, dans le calendrier des achats de matériel informatique?
Ben, écoutez, ouais, c'est ça.
En fait, est-ce que c'est un blâme ou c'est un simple constat?
Ben, c'est un constat. Je pense qu'on ne pouvait pas prévoir une telle situation. Et est-ce que c'était souhaité de la population, des élèves, des parents, des enseignants de faire de l'enseignement à distance? Je crois pas, parce qu'il reste que le meilleur enseignement possible, les enseignants, ce qu'ils veulent, c'est enseigner en présence avec leurs élèves devant eux. C'est ce qu'ils aiment le plus faire, ça c'est clair.
Ouais. Essayons, Mme Blanchet, d'humaniser un peu la situation par rapport aux professeurs. Sans nécessairement tous les mettre dans le même paquet, il y avait quand même, pour certains professeurs, je dirais, une situation peut-être plus facile à agencer avec un horaire d'emploi du temps à la maison, c'est-à-dire, par exemple, un prof sans enfant, soit parce qu'il est jeune et qu'il n'a pas encore fondé sa famille, ou encore parce qu'il est rendu à un certain âge, puis ses enfants ont 18-19 ans, ils sont capables de s'occuper d'eux autres tout seuls. Est-ce qu'on doit concevoir, si on essaie d'humaniser la situation, que pour un prof qui avait deux jeunes enfants à la maison, qui allait à l'école, qui devait s'occuper d'eux autres, en plus de s'occuper de sa classe, c'était à peu près le pire scénario qu'on pouvait imaginer, parce que dans les deux autres extrêmes, c'est-à-dire les enfants sont rendus vieux, ils s'organisent tout seuls, puis les enfants sont même pas nés parce qu'on est un très jeune couple, ceux du milieu avec des enfants étaient sûrement les plus affectés dans tout ce chambardement-là d'école à la maison.
C'est certain, puis on a des enseignants qui sont... Ben, le père et la mère enseignants aussi, là. Puis vous dites deux enfants, mais des fois, il y en a qui en ont plus que ça. Alors, c'était toute une logistique pour les appareils aussi, les ordinateurs dans ces maisons. C'était très difficile pour eux. J'ai vu des aménagements de maisons passer là, sur nos pages, les pages Facebook, là, des gens qui s'organisaient, puis des coins d'ordinateur pour un coin pour ci. Mais c'est sûr qu'il y a aussi, je dirais, toute la facilité avec les nouvelles technologies. Hein. On n'est pas tous au même niveau. Fait que je dirais que pour des enseignants pour qui les technologies, c'était... tout le monde est habitué avec les courriels puis tout,
oui.
Mais c'est pas tout le monde qui a la facilité. Fait que ça, il y en a qui ont dû aussi, même s'il n'y avait pas de jeunes à la maison, d'enfants à la maison, ils ont dû mettre les bouchées doubles là, pour arriver à faire tout le travail.
Amenant un facteur de stress, bien sûr.
Ben oui, exactement, parce qu'il y en a pour qui... l'informatique, c'était pas leur tasse de thé, c'est la pédagogie. Puis là, ils ont dû rapidement se mettre dans le bain pour apprendre ces outils-là. Donc, c'est sûr qu'il y en a que c'était épouvantable, la dose de stress avec ça.
Oui. Il y a des enfants qui fréquentent l'école régulière, qui sont des enfants qui ont besoin d'attention, qui ont besoin de suivi, qui ont besoin de support, mais qui ont surtout besoin d'être à l'intérieur d'une routine. Quand ils ne sont pas dans leur routine, ils se désorganisent. C'est comme ça qu'on appelle ça. Et à ce moment-là, ben, c'est la responsabilité du professeur de tenter de reprendre le contrôle ou, dans les cas extrêmes, avoir l'aide d'un ou d'une professionnelle. Mais j'imagine que dans certaines classes, la pandémie et tout ce qu'elle a amené comme désorganisation du courant scolaire habituel, pour certains professeurs, ça a dû amener des problématiques énormes avec des enfants à problème.
C'est sûr que tous les élèves en difficulté là, avec cette pandémie, même les élèves moyens, on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de retards là, qui ont été pris, puis ça a été difficile. Ça, c'est sûr que c'est pas, ça n'a pas été une situation facile, puis ce retard-là, puis ces problèmes d'apprentissage-là, on va les traîner pour plusieurs années, c'est sûr, avant de récupérer tout ça. Donc oui, c'est certain que les élèves qui avaient besoin de plus d'encadrement, puis que là, l'école ferme, on est en enseignement à distance, c'est vraiment pas l'idéal. On a quand même été chanceux au Grand Portage. On n'a pas eu de fermeture d'école et de classe tant que ça. On a été, en tout cas, chanceux parce qu'il y a des milieux où ça a été assez épouvantable. Mais c'est sûr que ça a été difficile. Puis je fais aussi un parallèle en formation professionnelle parce qu'on a des élèves en formation professionnelle qui sont des jeunes adultes, qui sont des adultes. Pour eux aussi, ça a été difficile. Hein? Vous savez qu'il y a eu un taux de décrochage assez incroyable là, en formation professionnelle. Donc, plusieurs niveaux que ça a été.
Madame Blanchet, la question du bulletin. Bon, deux bulletins au lieu de trois bulletins. Pondération des résultats, à savoir qu'un élève en difficulté avec le premier bulletin avait plus ou moins de chances de se reprendre dans la première mouture du comment le ministère de l'Éducation allait gérer ça. Après ça, on est revenu avec une pondération en disant le deuxième bulletin va compter beaucoup plus que le premier. Ça va peut-être permettre de sauver des élèves. À votre point de vue, est-ce que la nouvelle formule va en sauver tant que ça ou est-ce que les perdus, pour la plupart, vont demeurer perdus?
Écoutez, on va voir, hein. De toute façon, on ne sait pas encore la pondération, qu'est-ce que ce sera. Là. Le ministère est en train de faire des échantillonnages pour voir les résultats un peu partout pour décider de cette pondération. Est-ce que c'est ça qui est l'important? Hein? Je pense que la pandémie va nous avoir appris aussi là, que qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est l'évaluation ou c'est les apprentissages? Et je pense qu'il va falloir, comme société, réfléchir à qu'est-ce qu'on veut réellement pour notre futur, nos élèves dans le futur. Est-ce que c'est les résultats ou c'est vraiment de former la société de demain et de former des gens solides qui vont apprendre? Puis je crois que à ce niveau-là, en ce moment, la Fédération des syndicats enseignants fait beaucoup de représentations auprès du ministère pour partager cette réflexion. Mais je pense que il faudrait s'y pencher parce qu'il y a une énorme pression depuis plusieurs années, surtout depuis le bulletin chiffré, sur les enseignants, sur les élèves avec les notes. Hein. Donc ça, puis je crois qu'on a bifurqué un peu là, sur quelque chose qui. Donc, on aurait dû cibler davantage les apprentissages et mettre moins de pression sur tout l'aspect évaluation.